Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 19h sur Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Dans un instant, la suite des débats de Punchline, mais tout de suite c'est le journal de 19h avec vous Alexandre Lemaire. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Laurence, bonsoir à tous.
Des restrictions sanitaires bientôt allégées à l'école primaire, les élèves ne porteront plus le masque dans les départements les moins touchés par le virus.
Emmanuel Macron et Joe Biden se sont expliqués cet après-midi au téléphone dans la crise des sous-marins, avec le souci commun de restaurer la confiance entre les deux pays et l'esquisse d'un mea culpa du côté de Washington.
Les dépenses de l'État s'envolent dans le budget de 2022, alors que les mesures coûteuses n'ont pas encore été intégrées. Explication à suivre.
Nous irons aussi à Bordeaux où une employée de Vaccinodrome était jugée en comparution immédiate. Elle est accusée d'avoir établi une vingtaine de faux passes sanitaires pour ses proches. La tendance météo, Marlène Duret.
Un temps calme et ensoleillé pour demain, quasiment partout, mais après la dissipation des brumes, brouillards et autres grisailles matinales. Rendez-vous à la fin du journal pour une météo complète.
Europe 1.
Fini donc le masque à l'école primaire dans les départements les moins touchés par le Covid.
Oui, ça faisait quelques jours que le gouvernement laissait espérer un allègement des restrictions sanitaires. Nous y sommes, après un conseil de défense sanitaire ce matin. C'est bientôt la fin du masque à l'école, là où le virus circule le moins, Louis Dragnel.
Oui, absolument. C'est une mesure qui vous concerne principalement si vous avez des enfants. Alors, donc à partir du 4 octobre, c'est-à-dire dans 10 jours, les enfants, mais pas les enseignants, ne seront plus obligés de porter le masque à l'école primaire. Mais attention, plusieurs conditions sont posées. Il faut que l'école se trouve dans un département où le taux d'incidence est inférieur à 50 pendant une durée de 5 jours consécutifs. Alors à ce stade, 41 départements sont sous ce taux d'incidence de 50 et 31 d'entre eux sont sous ce seuil depuis 5 jours. Donc si en fait on devait résumer ce qui se passe en ce moment, aujourd'hui seuls 31 départements pourraient alléger donc les mesures pour le port du masque à l'école pour les enfants. Donc si on veut être optimiste ensuite, 14 départements supplémentaires qui ont aujourd'hui un taux d'incidence compris entre 50 et 60 pourraient passer sous les 50 d'ici le 4 octobre. Ensuite, pour ce qui est de la levée du pass sanitaire, vous savez, il en était question depuis plusieurs jours. Il reste en place pour le moment, mais le gouvernement travaille bel et bien à une levée progressive et territoriale de ce pass. On en saura plus début octobre.
Merci Louis. La mesure ne fait pas l'unanimité chez les scientifiques. Pour l'épidémiologiste Mircea Sofonea, le gouvernement se précipite un peu.
C'est une mesure que l'on souhaite évidemment à terme, mais c'est peut-être un peu tôt parce que la rentrée n'a eu lieu qu'il y a 3 semaines. Donc pour le moment, l'effet qui peut arriver avec du retard sur les transmissions à l'école, et on sait qu'elles existent, eh bien, peuvent encore se faire jour. Et puis, il y a la rentrée dans la mauvaise saison. Ce variant Delta est très contagieux. Il peut être encore plus contagieux lorsque les jours seront plus frais et plus courts. Et enlever le masque dans des salles de classe qui n'ont pas forcément été équipées de purificateurs, c'est forcément s'exposer à davantage d'événements de transmission entre enfants qui ne sont pas, dans leur grande majorité, pour les plus jeunes, vaccinés. Donc, lorsque l'on prend de telles mesures, il faut les accompagner de moyens de surveillance accrus et ainsi pouvoir être réactif si jamais cette reprise venait à être importante.
Mircea Sofonea, épidémiologiste à l'Université de Montpellier avec Élise Dangean. Pour l'instant, le pass sanitaire, lui, est maintenu sans distinction dans tous les départements.
Emmanuel Macron et Joe Biden se sont enfin parlé au téléphone à propos de la crise des sous-marins.
Les deux présidents viennent de publier un communiqué commun. Allons d'abord du côté de l'Élysée avec vous, Jacques Serres, qui ressort de cet échange. Jacques, c'est une forme d'apaisement entre Paris et Washington, même si sur le fond, rien ne change.
Oui, les deux chefs d'État ont convenu que des consultations ouvertes entre alliés auraient permis d'éviter cette situation. Joe Biden a fait part de son engagement à ce sujet. Autrement dit, promis, ça ne se reproduira pas. Mais pas de regrets ni d'excuses de la Maison-Blanche. Alors la relation entre les États-Unis et la France semble toujours fébrile après cet échange. Via ce communiqué, Joe Biden et Emmanuel Macron annoncent lancer un processus de consultation approfondie pour garantir justement la confiance. De son côté, l'Élysée ne donne aucune précision sur la durée de cet échange qui a eu lieu en milieu d'après-midi. Le palais ne dit pas non plus si l'ambiance était glaciale ou chaleureuse. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'Emmanuel Macron et Joe Biden ont convenu de se rencontrer en Europe à la fin du mois d'octobre pour, je cite, « trouver des points d'accord ». Dans ce contexte, Emmanuel Macron a fait savoir à son homologue que l'ambassadeur de France aux États-Unis, Philippe Etienne, va retourner à Washington dès la semaine prochaine pour travailler en lien étroit avec des hauts fonctionnaires américains.
Merci Jacques Serret. Allons maintenant aux États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Après cette conversation téléphonique, Alexis, on sent bien une forme de mea culpa, hein, de la part de Joe Biden.
Oui, avec au moins une reconnaissance sur le fait que les formes n'ont pas été mises. Des consultations ouvertes auraient permis d'éviter cette situation, dit le communiqué. Ces derniers jours, Washington répétait que Paris avait été prévenu en amont. Visiblement, la déclaration commune montre bien que s'il y a eu des contacts, ils n'ont pas été suffisants. Et les États-Unis reconnaissent ce faux pas. En revanche, il n'y a pas d'excuse américaine envers la France. On savait que Joe Biden avait été surpris par l'ampleur de la réaction de Paris. Et avant le coup de téléphone, des officiels américains assuraient que le président allait vouloir apaiser ses tensions avec la France. On rappelle que c'est Joe Biden qui a sollicité cet appel. Le reste va dans le sens des quelques déclarations de la Maison-Blanche depuis le début de la crise, à savoir que Washington souhaite travailler étroitement avec la France et l'Europe, y compris dans l'Indo-Pacifique. Sur le fond, il n'y a aucune remise en cause du nouveau partenariat avec l'Australie. Et puis, côté américain, on pourra avoir des précisions dans les prochaines minutes avec le point presse quotidien de la porte-parole de la Maison-Blanche.
Merci Alexis Guilleux, en direct des États-Unis pour Europe 1.
Le budget 2022, Alexandre Lemaire, a été présenté ce matin au Conseil des ministres et les dépenses de l'État s'envolent.
Oui, malgré la fin du quoi qu'il en coûte, ce budget 2022 intègre toute une liste de nouvelles dépenses qui ont été annoncées au cours des dernières semaines. Ce projet de budget doit normalement passer au tamis du Haut Conseil des finances publiques. Or, cet organe indépendant qui vérifie la viabilité du budget se dit même incapable de rendre un avis sur la copie du gouvernement. Carole Ferry, alors, qu'est-ce qui coince ?
Eh bien, le problème, c'est que ce budget 2022 est un texte à trous. Il ne tient pas compte de certaines mesures promises, mais pas encore budgétées. Le plan d'investissement pour 2030, par exemple. Combien seront dépensés l'an prochain ? Point d'interrogation. Le revenu d'engagement pour les jeunes ? Pareil. Les 1,5 milliard promis à Marseille ? Pas une ligne pour le moment dans ce budget. Les montants doivent être tranchés lors du débat parlementaire, mais difficile d'ici là d'évaluer la cohérence de l'équation finale. L'opposition a par ailleurs dénoncé une accumulation de dépenses. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a défendu lui ce matin la sincérité totale des choix budgétaires qui visent à investir et préparer l'avenir. Il s'en est pris ensuite à ses opposants.
Notre politique réfléchie n'a rien à voir avec le n'importe quoi budgétaire de nos opposants, qui ne cessent de multiplier les propositions toutes les plus farfelues les unes que les autres, sans le moindre euro de financement. De rachat des autoroutes à 40 milliards d'euros, en passant par l'augmentation générale des salaires de 10% financée par l'État pour 25 milliards d'euros, au doublement du salaire des enseignants pour plus de 50 milliards d'euros, tout cela ne tient pas la route et est très loin de la politique réfléchie que nous avons menée avec le président de la République pour faire face à la crise et avoir désormais un niveau de croissance parmi les plus élevés de la zone euro.
A noter tout de même que la dernière fois que le Haut Conseil aux finances publiques s'est montré aussi sévère vis-à-vis d'un budget, eh bien c'était pour le dernier budget du quinquennat de François Hollande.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1.
Et dans un instant, Olivier Dussopt, le ministre délégué aux comptes publics, sera notre invité dans Punchline avec Agnès Verdier-Molinier et Emmanuel Duteil pour parler de ce budget 2022.
L'élan de générosité ne se tarit pas pour financer la reconstruction de Notre-Dame. Plus de 840 millions d'euros de dons ont été collectés, annonce le général Georges Lain, qui pilote la renaissance de la cathédrale. La phase de restauration va commencer. Le calendrier vise toujours une réouverture en 2024.
Restez avec nous. Dans un instant, nous serons au procès des attentats du 13 novembre avec le témoignage d'un commissaire qui a bravé la mort pour sauver des otages. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h sur Europe 1, le témoignage très fort d'un commissaire de police aujourd'hui au procès des attentats du 13 novembre, Alexandre Lemaire.
Il est le premier policier de la BAC à être entré au Bataclan quelques minutes seulement après le début de la tuerie. Ce commissaire était avec l'un de ses collègues, avec son arme de service. Il a tué l'un des terroristes qui portaient tous des armes de guerre. Il y avait pour ces hommes un danger mortel à intervenir à cet instant précis, Gladys Laffitte.
Oui, et pourtant, en un regard, le commissaire et son équipier se sont mis d'accord pour pousser les portes du Bataclan en pensant qu'on ne les franchirait pas dans le sens retour, acte d'emblée le policier. Avec pudeur, il décrit d'abord un tapis de corps et puis une voix, celle d'un terroriste qui menace un otage près de la scène. Le fonctionnaire tire 4 coups, le terroriste tombe et se fait exploser. Dans sa kalachnikov, une cartouche est chambrée. Le commissaire vient de sauver l'otage. Mais il est ensuite la cible de tir. Alors par réflexe, il dit adieu à ses proches. On allait mourir ce soir-là, c'était écrit. Pourtant, il sort et rentre 3 fois dans le Bataclan, sauf d'autres victimes qu'il tire de la fosse. Alors à découvert, des personnes lourdes car elles avaient baigné dans le sang, précise-t-il. Sous des corps, un petit garçon de 5 ans, un casque anti-bruit sur les oreilles. Il est vivant aujourd'hui. Malgré ses vies sauvées, le commissaire exprime un remords de ne pas avoir pu extraire d'autres victimes. On n'avait que notre courage à opposer aux terroristes. On ne pouvait pas aller plus loin, regrette-t-il.
Gladys Laffitte au procès des attentats du 13 novembre 2015. Il y aura des suites judiciaires après le suicide d'un cardiologue à l'hôpital Georges Pompidou, l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'ex-directrice de l'hôpital ainsi que trois professeurs de médecine sont renvoyés devant le tribunal pour harcèlement moral. En décembre 2015, le professeur Ménien s'était jeté par la fenêtre du 7e étage de l'hôpital.
À Bordeaux, une jeune femme jugée en comparution immédiate pour avoir fourni de faux certificats de vaccination, Alexandre.
Oui, cette jeune femme de 19 ans travaillait comme contractuelle au vaccinodrome de Bordeaux. Elle comparaît pour avoir établi une vingtaine de faux passes sanitaires pour ses proches, Stéphane Place.
Un gilet clair sur un t-shirt noir, cette jeune femme de 19 ans s'installe dans le box, sortant directement de sa garde à vue, la première de sa vie et la dernière, assure-t-elle à la présidente du tribunal correctionnel qui l'interroge. 24 faux passes sanitaires pour 16 bénéficiaires émis à partir des ordinateurs du vaccinodrome bordelais où Samia avait été embauchée le 1er septembre. C'est là que la PJ vient l'interpeller lundi. Le médecin référent de ce centre a découvert des incohérences. Les deux injections qui auraient été reçues le même jour par une seule personne, par exemple. Après une interpellation un peu mouvementée, l'agent administratif reconnaît les faits devant les enquêteurs, mais uniquement pour des membres de sa famille ou pour rendre service à des amis. Pas de business, pas d'argent, se défend la prévenue qui s'écroule en larmes quand elle entend le procureur réclamer à son encontre de la prison ferme. Maître Margot Castex est l'avocate de la jeune employée du vaccinodrome.
Il n'y a jamais eu la preuve d'un but lucratif, et d'ailleurs elle l'explique. C'était pour 16 personnes, 16 personnes de son entourage. Immaturité, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a 19 ans, que c'est une gamine, et elle le dit d'ailleurs elle-même, hein. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai fait une bêtise, je vais là où vent me mène. Voilà, elle a fait ça sans réfléchir.
Le tribunal correctionnel vient à l'instant de condamner la jeune employée du vaccinodrome à 18 mois de prison, intégralement assortie du sursis, et elle n'a pas le droit d'exercer dans la fonction publique durant 5 ans.
Le PSG affronte Metz ce soir pour la 7e journée de Ligue 1.
Les Parisiens se déplacent au stade Saint-Symphorien, mais sans Lionel Messi, forfait après un coup reçu au genou dimanche dernier face à Lyon. Le PSG leader au classement, le FC Metz dernier. Cyril Delamorinerie, vous êtes sur place à Metz, c'est un peu David contre Goliath ce soir, hein ?
Oui, affiche totalement déséquilibrée ce soir le PSG. Ses multiples stars trônent en tête de la Ligue 1 avec 6 victoires en autant de matchs et tout l'inverse bien sûr de Metz. Bon dernier, aucune victoire au compteur. Pire défense de la Ligue 1 sur la terrasse d'un café du très joli centre-ville de Metz. J'ai rencontré notamment un supporter messin qui porte bien son prénom. Il s'appelle David. Et face à Goliath le PSG, il ne se fait guère d'illusions.
Si au moins on n'est pas ridicule, ce sera déjà une bonne chose pour nous. Parce que le début de saison est complètement loupé, il faut faire bonne figure et puis c'est pas contre Paris qu'on joue le maintien, hein. C'est contre les clubs de notre niveau. Une défaite contre Paris, ça reste une défaite, mais avec Messi, c'est pas la même saveur quand même. On aurait voulu le voir, hein. Sextuple Ballon d'Or à Saint-Symphorien, c'est jamais arrivé.
Alors bon, dans l'épisode de la Bible, David finit par terrasser Goliath au 21e siècle sur un terrain de football. Tout reste possible, même si Metz reste sur une série de 10 défaites consécutives contre le PSG. Il faut remonter à 2007 pour trouver la trace d'un match nul entre les deux formations.
Merci Cyril, on vous retrouvera très régulièrement ce soir, bien sûr, pour suivre Metz-PSG, coup d'envoi 21h. La météo, Marlène Durès, c'est un temps calme et souvent ensoleillé qui s'installe sur le pays.
Oui, nous sommes protégés par un anticyclone, on a très peu de vent et c'est l'automne. Résultat, les matinées sont fraîches et les brouillards aux grisailles nombreux au petit jour. Alors demain matin, on va en trouver des brouillards, alors forcément près des cours d'eau ou dans des endroits un petit peu humides, notamment vers les Pays de la Loire, les Hauts-de-France et le Grand Est. Des plaques de nuages bas sont attendues également dans les régions situées autour du Massif central, dans les vallées de la Saône, au sud de la Garonne, un classique. Pas mal de nuages bas aussi le long de la Manche, des nuages bas qui vont rester d'ailleurs toute la journée, alors que sur le reste du pays, les brouillards et les grisailles vont se dissiper avant midi, sauf exception. Ce sera donc une belle journée ensoleillée. On notera simplement un ciel un petit peu plus variable sur le piémont pyrénéen et son relief, avec peut-être un risque d'averse dans l'après-midi. Et en ce jour d'équinoxe d'automne qui aura lieu précisément ce soir à 21h21, heure de Paris, les températures ont affiché parfois des valeurs inférieures à 5 degrés ce matin au nord de la Loire. Rien d'exceptionnel et on remet ça demain avec 4 à 8 degrés en général, sauf du côté de la Bretagne ou du littoral de la Manche où on attend plutôt 9 à 12 degrés demain matin. Quant aux températures maximales, elles seront comprises entre 18 degrés à Outreau dans le Pas-de-Calais et 28 à Aix-en-Provence avec 22 à Quimper, Lille, Dijon et Belfort, 23 à Paris, Bourg-en-Bresse, 24 dans l'Allier à Montluçon, 26 à Toulon ou encore 27 degrés dans l'Aude.
Merci beaucoup Marlène Duret pour ces températures. Merci Alexandre Lemaire. À tout à l'heure 20h. À tout à l'heure.